quand on démarre et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va fonctionner ou pas, on a tendance à tenter trop de trucs. Et je pense qu'une des choses qu'on a apprises et qu'on fera mieux la prochaine fois, c'est effectivement se focusser. La stratégie, c'est aussi savoir dire non. Et c'est vraiment une phase de transformation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est refocuser nos efforts pour être meilleur dans ce qu'on fait. Et vous avez dit qu'on avait réussi. Je pense qu'on peut réussir toujours plus. Donc voilà, le potentiel est là. Maintenant, c'est à nous de le prendre.
Bienvenue dans cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulse le futur, un podcast entreprise du futur réalisé en partenariat avec Okedito, agence de croissance digitale pour la performance des équipes marketing et commerciale. Ce podcast est réalisé depuis le 8e congrès entreprise du futur à Lyon. Des histoires donc de transformation d'entreprise, de partage d'expérience et de vision. La parole est donnée à ces dirigeantes et dirigeants qui nous racontent comment ils préparent leurs entreprises pour le futur. Émile Novakov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Scaleflex, vous fournissez des services, pour résumer, vous allez nous en dire évidemment un peu plus, des services cloud, évolutifs, fiables, abordables pour charger, stocker, organiser, optimiser, accélérer tous les actifs multimédia, évidemment pour les sites web ou les applications mobiles. Votre credo, vous allez en parler, c'est la performance et la transformation, on va dire que c'est le DAM, le Digital Asset Management, pour bien parler français. Alors, on va commencer par la performance parce qu'il y a toute une évolution justement dans votre démarche d'entreprise qui arrive à cette transformation. Alors, la performance.
Alors, on va parler de performance, bien sûr, et de Digital Asset Management. Mais si vous voulez, on parle aussi beaucoup de futur. Vous avez mentionné le mot futur plusieurs fois dans l'intro. Chez Scaleflex, on s'est toujours demandé à quoi va ressembler l'Internet du futur. Comment est-ce qu'on va consommer l'Internet dans 5 ou 10 ou 15 ans? Et si vous voulez, le thème récurrent de tout projet de transformation digitale ou même de vision au sujet de l'Internet du futur, c'est l'actif multimédia, c'est les images, c'est les vidéos, c'est le contenu qui, d'une manière ou d'une autre, va être consommé, soit sur une page web, soit dans une vision pro, par exemple, des lunettes 3D, etc. Et du coup, au cœur de tout ça, il y a bien sûr l'asset et l'actif multimédia et sa performance. Donc, il faut que ça charge vite. Donc, on a commencé, nous,
chez Scaleflex. Parce que si ça ne charge pas vite, on perd des clients, finalement.
On perd en expérience utilisateur et au final, tous les bons efforts qu'on fait pour imaginer des nouvelles expériences digitales. J'ai mentionné le 3D, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'essai en ligne virtuel pour l'e-commerce, juste à titre d'exemple, et plein d'autres choses innovantes qui se font en ce moment, qui vont se faire dans le futur. Si c'est lent, ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, on a commencé en 2016-2017 vraiment avec ce credo, en se disant que pour que des expériences digitales peuvent être construites et imaginées, il faut que la performance soit là, que tous ces assets qui sont délivrés, images, vidéos, fichiers, soient rapidement délivrés partout dans le monde. Et on a donc démarré avec la création d'algorithmes de compression pour permettre de rapidement atteindre l'utilisateur final via n'importe quel canal avec donc ces assets multimédia. Avec le temps, on a bien sûr du coup appris beaucoup sur ce marché, eu la chance d'échanger avec plein de clients et d'apprendre aussi de ces clients-là et de ces partenaires. On a évolué, on a rajouté bien sûr toutes les couches aussi de gestion, d'organisation, de collaboration, de classification pour qu'une entreprise puisse non seulement grâce à nos solutions accélérer son contenu mais aussi l'organiser, ce qui a aussi en fin de compte un bénéfice sur l'accélération, tous les process qu'il y a entre la création d'un asset et sa diffusion peuvent être accélérés. Et c'est ce qu'on nous on propose aujourd'hui avec nos solutions de Digital Asset Management. Et les sujets auxquels on s'intéresse aujourd'hui beaucoup, pour en revenir à l'intro, c'est comment est-ce que demain on va consommer l'Internet, la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'IA bien sûr. Oui. Donc c'est des sujets sur lesquels nos équipes de R&D planchent en ce moment en partenariat avec nos clients pour imaginer des use cases et des choses intéressantes à montrer et à accompagner nos clients.
Alors justement, comme on parle aussi de transformation, parfois il y a, on va dire, plus que des déclics, des réalités. En quoi la crise sanitaire, justement, a changé la donne aussi pour vous?
Alors, on a eu toujours des outils de collaboration qu'on connaît depuis 10-15 ans d'acteurs globaux du logiciel que je ne vais pas citer ici, qu'on utilise tous les jours sur nos ordinateurs au travail ou à la maison. C'est des outils de collaboration qui font très très bien le job quand il s'agit de faire des confs, de travailler sur un fichier Word, de travailler sur un fichier PowerPoint par exemple, mais c'est des outils de collaboration qui ont des limitations lorsqu'il s'agit de travailler avec des assets multimédia. D'accord, on ne peut pas visualiser, on ne peut pas paginer, on ne peut pas catégoriser, classifier un gros volume d'images, un gros volume de vidéos de manière simple avec ces outils-là. Et lorsque la crise sanitaire est arrivée en hiver 2020, en fait, on s'est rendu compte que ces solutions de collaboration n'étaient plus suffisantes. Et c'est là vraiment que les solutions de Digital Asset Management ont commencé à croître avec un rythme plus accéléré que c'était avant la crise sanitaire et que nous, on a eu du coup notre opportunité aussi de se lancer dans ce marché-là.
Voilà, croître, Émile Novakov, mais aussi avec un enjeu dont on parle beaucoup, hein, qui fait partie de la transformation, c'est les enjeux environnementaux.
Oui.
Et ça aussi, c'est un impact, on parle souvent d'un impact évidemment du numérique, hein, oui. De la pollution numérique. Ça aussi, vous y travaillez ?
Oui, alors initialement, ce n'était pas forcément une proposition de valeur ou un enjeu sur lequel on pensait pouvoir intervenir, mais au fil des années, ce qu'on s'est rendu compte, c'est le fait qu'on optimise et qu'on compresse tous ces assets médias. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut moins de stockage, il faut moins de bande passante pour les délivrer, les diffuser. Et on a commencé il y a à peu près 18 mois de ça de faire des études de l'impact sur l'empreinte carbone d'un site web qui utilise nos technologies comparé à un site web qui ne les utilisait pas. Donc, on a commencé à faire des A/B tests, on appelle ça, avec certains de nos clients, notamment ici Michelin à Lyon, pour mesurer quel est l'impact de l'optimisation des assets multimédia sur la réduction de l'empreinte carbone. Et les résultats sont très, très encourageants. Par exemple, on voit qu'on est capable de diviser par 4 l'empreinte carbone ou le CO2 émis par une page web grâce aux optimisations mentionnées jusqu'à là.
Donc clairement, quelque part, vous avez parlé de Michelin, par exemple. Est-ce que c'est aussi par la force de la demande de vos clients aussi que vous avez évolué vers ce sujet-là ?
Alors, bien sûr, en tant qu'entreprise, il faut identifier les opportunités, naviguer la vague. Je ne vais pas vous expliquer qu'il y a bien sûr beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits par beaucoup d'entreprises, des fois peut-être un petit peu trop. Moi, j'ai toujours voulu éviter le greenwashing et mettre de partout qu'on sauve la planète. Si on n'est pas capable de le mesurer, ça ne sert à rien, à mon avis. Voilà, nous, il nous a fallu arriver au moment où on est capable de vraiment le mesurer pour commencer à naviguer cette vague. Alors, ce n'est pas la seule vague sur laquelle on navigue, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce petit plus ou en tout cas ce type de contenu sur lequel on peut discuter comme aujourd'hui on le fait avec vous sur ce podcast.
Exactement. Et alors vous avez quoi, 80 collaborateurs? Au début vous avez commencé à travailler sans bureau d'ailleurs.
Oui, on était
quand
deux.
Quand on parle de télétravail maintenant, ouais. Enfin, deux sans ouais. bureau.
Donc mon cofondateur et moi on s'est rencontrés en école d'ingé il y a quasiment 20 ans de ça maintenant et on a toujours gardé contact et il y a 6-7 ans en 2016 quand on était prêt pour la prochaine étape dans nos carrières respectives, on s'est retrouvés, on a lancé du coup Scaleflex en remote. Mm-hmm. À l'époque l'idée c'était vraiment de pouvoir permettre à des gens qui veulent travailler avec nous, que ce soit des développeurs, des ingénieurs, des gens du marketing, de pouvoir nous rejoindre sans avoir de contraintes géographiques. D'accord, on ne voulait pas pouvoir se limiter juste à Lyon, à Paris ou un pays même donné. On voulait vraiment proposer à tous ceux qui nous connaissent et qui veulent contribuer à notre projet de nous rejoindre, peu importe où ils se trouvent. Et c'est comme ça qu'on a commencé en remote et on a mis 3 ou 4 ans avant d'ouvrir nos premiers bureaux ici à Lyon d'ailleurs, en 2019, un peu avant la crise sanitaire. et au final, donc aujourd'hui, on a triplé le nombre de nos collaborateurs dans les derniers 18 mois et on est à peu près plus que 80, on est quasiment 90. L'objectif étant de finir l'année à 100 dans 14 pays différents. Là, par exemple, on vient d'embaucher un ingénieur commercial en Hollande. D'accord ? Donc, pareil, il travaille à distance et puis on se retrouve au bureau quand on a envie de le faire et quand c'est nécessaire.
Donc, on voit la réussite, hein, l'évolution aussi rapide, hein, parce que vous dites d'embaucher 10 personnes supplémentaires en très peu de temps. S'il y avait quand même peut-être un des points négatifs ou quelque chose qui fait que vous disiez je ne referais peut-être pas la même chose, Émile Novakov.
De quoi ? De lancer l'entreprise Scaleflex ?
Oui, ou peut-être, je crois savoir, vous vous dispersez peut-être un petit peu trop, vous voulez en faire un petit peu trop.
Alors, ça, c'est un peu, je pense, un défaut qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs passionnés qui, en plus, ont une affinité vers la technologie. Moi, je suis ingénieur de formation, comme je l'ai dit. Du coup, on est passionné de technologie, on veut résoudre tous les problèmes de tous les clients. Nous, on aime beaucoup, hein, comme je l'ai mentionné au début, travailler main dans la main avec nos clients, identifier des cas d'usage et puis développer des solutions autour de ces cas d'usage. Quand on démarre et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va fonctionner ou pas, on a tendance à à tenter trop de trucs. Et je pense qu'une des choses qu'on a apprises et qu'on fera mieux la prochaine fois, c'est effectivement se focusser. La stratégie, c'est aussi savoir dire non. C'est pas juste identifier ce qu'il faut faire, mais c'est aussi savoir dire non et se focusser sur les deux ou trois choses qui auront le plus d'impact pour les clients, mais aussi pour l'entreprise, hein, d'un point de vue économique. Et c'est vraiment une phase de transformation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est refocuser nos efforts pour être meilleur dans ce qu'on fait. Et vous avez dit qu'on avait réussi. Je pense qu'on peut réussir toujours plus. Donc voilà, le potentiel est là. Maintenant, c'est à nous de le prendre.
C'est à vous de le prendre. Et alors, on a un petit rituel, un nouveau rituel dans ce podcast et cette édition 2023, puisqu'on est en partenariat avec Okedito. Et donc, j'ai proposé à Paul Perdrieu de nous rejoindre, un fondateur, directeur associé d'Okedito, pour vous poser des questions.
Bonjour, Émile.
Bonjour, Paul.
Alors, les trois questions rituelles, les voici. Je sens qu'il y a une fébrilité qui s'installe sur le studio. Chez Scaleflex, vous êtes physique ou digital ?
Digital.
Newbies ou valeur vie client ?
En ce moment, newbies.
La dernière question, si Scaleflex était un sport, quel serait-il ?
Le pentathlon.
Ah oui, complexité, endurance, performance, c'est ça ?
Et diversité aussi, surtout, très important.
Émile, merci.
Merci à vous.
Alors là, on peut dire que vous avez battu un record de réponses aux questions de Paul. En tout cas, c'est quoi les prochaines étapes là, quand on se développe aussi vite, Émile Novakov, vous avez quoi comme horizon ?
En fait, moi, ce qu'on a eu l'occasion d'apprendre avec mes partenaires et nos équipes qui sont là depuis longtemps, c'est que c'est par phase. Donc là, on a une phase de croissance qu'il faut qu'on stabilise maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'entreprise, donc il faut bien sûr scaler. Hein. On s'appelle Scaleflex, donc on est bien scaler nos process, notre organisation, avant de pouvoir préparer vraiment la prochaine phase qui, à mon avis, devrait être l'hypercroissance. C'est ce que chaque entreprise ou éditeur SaaS recherche, bien sûr. Donc, il nous faut quelques mois là pour consolider et être prêt pour cette hypercroissance qu'on attend en 2024.
Eh ben, merci à vous, en tout cas, Émile Novakov, donc PDG de Scaleflex, d'avoir répondu à mes questions dans cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur.
Merci beaucoup, Nathalie.